Amen. Je voulais dire simplement que 10% de notre temps sont investis à l'extérieur du pays d'Israël pour les nations, parce que notre appel en tant que juif messianique d'Israël, c'est d'être une lumière aussi pour les nations, un exemple pour les nations. Donc on donne 10%. On a une école au Burkina Faso, on soutient 70 enfants, un orphelinat en Inde, à Chennai, et des enfants en Ouganda, etc. Bon, on a plein de trucs. Et aussi 10% de de ce qu'on reçoit financièrement sont investis à l'extérieur. Donc nous, on croit en la dîme. Les membres donnent la dîme et notre communauté donne la dîme, et bien de la dîme. Voilà, pour bénir les autres ministères. Et c'est toujours encourageant de voir que si chacun donnait sa dîme dans le corps du Christ, je crois qu'il ne manquerait aucune ressource à Dieu, parce que c'est la façon dont il nous a appelés à vraiment donner. Il vous sera rendu. Alors, j'avais sur mon cœur quelque chose à vous partager. Quelqu'un m'a envoyé il n'y a pas très longtemps un petit diaporama, et ça s'appelle la clinique du Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Le voilà. Une fracture en trébuchant sur la jalousie. Ça vous est arrivé déjà, non? Une myopie due au fait que je ne pouvais plus voir au-delà des choses négatives de mon prochain. Alors on va voir les prescriptions du Seigneur. Je vous donne le diaporama, c'est sur ma clé, alors vous pouvez le prendre avec vous à la maison, d'accord? Alors, au saut du lit, boire un verre de reconnaissance. Le mot-clé, merci, merci, merci papa. Avant d'aller au travail, prendre une cuillère de paix. À chaque heure, appliquer une compresse de patience et avaler un grand bol d'humilité. Connaissez la personne qui a écrit ce livre? L'humilité en 10 leçons et combien j'ai réussi à être humble. Voilà. De retour à la maison, faire une injection d'une dose d'amour. Et avant d'aller au lit, prendre 2 capsules de conscience pacifiée. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez ce petit diaporama, je vous le donne. Si vous avez une clé USB, je vous la passerai. D'accord? Voilà. Très important d'avoir la conscience pacifiée par le Seigneur. Amen. Voilà. Très bien. Alors, nous allons continuer avec justement ces versets qui nous interpellent c'est dans la prière des disciples. J'appelle ça la prière du disciple, c'est la prière le Notre Père. Hein. Ce sont les disciples qui demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et il dit, voilà, je vais vous donner un schéma. Si vous utilisez ce schéma, ben dans tous les schémas, on commence par l'adoration, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ce qui nous intéresse ici, c'est eh bien ce sujet du pardon. Et parce qu'il y a ici, c'est Matthieu chapitre 6, hein, le Seigneur nous dit de prier comme ceci, pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés, nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Alors je ne sais pas quelle traduction, j'ai le prix de l'internet, je ne sais pas quel genre de traduction c'est, mais c'est toujours bien de voir des traductions différentes parce que ça donne une lumière un petit peu sur les autres, sur les versets. Et regardez au verset 14, en fait, il y a ensuite, après la prière du Seigneur, il y a cette condition qui est très très forte ici. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et ici, nous avons en fait une interpellation du Seigneur. La grâce de Dieu, ici, selon ces versets, est conditionnelle du pardon que nous offrons aux autres personnes. Je crois qu'il y a un sujet à réflexion ici, à penser. On veut tous être sous la grâce de Dieu, amen. On veut tous recevoir sa grâce, mais est-ce que nous sommes prêts à donner la grâce aux autres? Et je crois qu'on revient à cette parabole que le Seigneur nous a parlé. Voilà, c'est cette parabole ici. Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Vous connaissez l'histoire, hein? On lui en présentait un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Alors cette personne, 60 millions de pièces d'argent, il est en dette. Et puis le roi, ce roi, eh bien, il fait les comptes. Et comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser, son maître donne ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants pour rembourser sa dette. On en a parlé ce matin. Le serviteur se jette alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, lui dit « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. » Il ne voulait pas recevoir de l'argent, il voulait simplement un délai de temps. Et pris de pitié ou ému de compassion, c'est toujours la même chose, quand le Seigneur fait quelque chose, il est toujours ému de compassion, quand vous regardez tous les miracles, les actions de grâce, c'est toujours le Seigneur ému de compassion. Son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. Et ensuite, cette personne, au lieu d'être reconnaissant, eh bien, à peine sorti, c'est marqué dans le texte, ce serviteur rencontre un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Alors, vous vous souvenez, on parlait de 60 millions de pièces d'argent, hein, et 100 pièces. Bon, on peut 100 euros. Voilà, un gars lui soit 100 euros, il vient juste de sortir de chez du roi, ouais, il a plus de dettes, il devait 100 millions d'euros, maintenant c'est 100 euros. Paie-moi ce que tu me dois. Paie-moi ce que tu me dois. Et son compagnon se jeta à ses pieds, le supplia, sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai. Tiens, c'est la même chose exactement que l'autre a dit. Alors il aurait pu dire, ben, tu sais quoi, oui, ma dette a été remise, maintenant je peux te remettre cette petite dette, c'est rien. Mais voilà, l'autre ne voulut rien entendre, bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. Et d'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'est passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Moi, je m'imagine, dans ce verset, c'est les gens qui vont prier. Seigneur, Seigneur, tu vois mon voisin, là, fais quelque chose, touche son corps, son cœur. Alors, celui-ci fait convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. Tu es vraiment odieux. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'ai remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Et je crois qu'ici, quand on parle de la réconciliation, eh bien on parle de la clé du pardon. Le pardon, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a pardonné, il nous a réconciliés, il a racheté tout notre dette. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit « Tetelestai, tout a été payé, pour boire inclus. » Il a payé notre dette et nous sommes appelés maintenant eh bien, à lâcher les dettes que les gens ont envers nous. Pardonne, Seigneur, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Et le mot comme, c'est quelque chose qui est très puissant. On a été pardonné, il faut pardonner. On a été pardonné de millions de péchés, il faut pardonner à ces dizaines, à ces centaines de péchés, peut-être qui ont été commis. Et souvent, dans la parole de Dieu, il y a un verset là. Mon Père céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Et il y a des gens qui nous doivent quelque chose. Souvent, le manque de pardon, c'est quoi? C'est dire, tu me dois 100 euros. Tu me dois la justice. Quand on ne pardonne pas, eh bien, cela nous permet d'être au-dessus de la personne qui nous doit. C'est un pécheur et nous sommes justes. Le plus grand problème que nous avons, nous, personnellement, en Israël, c'est le problème de reconnaître son péché. Parce que Israël est un pays qui a souffert. Le peuple d'Israël a été persécuté pendant des millénaires. Donc c'est très facile pour quelqu'un qui est israélien juif de se justifier. C'est pour ça qu'on n'est pas très bon pour expliquer la situation en Israël. Il y a des guerres, il y a des batailles, on n'est pas très bon pour expliquer parce qu'on a raison. On a raison, donc on va très mal expliquer. Quand on a raison, on s'explique très mal. Et quand on a été victimisé, eh bien c'est très difficile de voir sa propre faute. On accuse les autres. Donc, quand on a été victimisé, eh bien, les autres sont coupables. Et pour nous, de reconnaître nos propres fautes, c'est toujours une question de révélation de la parole de Dieu. Alors souvent, quand on se compare à d'autres personnes, les gens du monde, eh bien, on peut dire, oui, moi, je ne suis pas comme eux. Je suis mieux qu'eux. Mais le Seigneur nous demande toujours de faire un travail dans nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont eh bien, blessés. Et ici, dans cette clé du pardon, il y a quelque chose que je voudrais vous partager avec vous. Ce verset, Matthieu chapitre 5, verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécute afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ce verset est un verset que j'avais lu pendant, je dirais des milliers de fois. J'ai prêché sur le pardon, peut-être des centaines de fois. Mais un jour, le Seigneur m'a donné cette révélation de ce verset dans mon cœur. Ça vous arrive de temps en temps, on lit des versets souvent, et puis tout d'un coup, on a la révélation de ce que le Seigneur veut vraiment de nous. Et ça s'est passé pendant l'Antifada, l'an 2000 à peu près. C'était à l'époque où il y avait des terroristes palestiniens, des jeunes, qui avaient des charges d'explosifs autour de la ceinture et qui se faisaient exploser, suicider en fait, dans les bus, dans les restaurants, dans les cinémas, dans les centres commerciaux. Tout Israël était affecté, tous les jours, tous les deux jours, il y avait des attentats subventionnés par Saddam Hussein, si vous vous souvenez de lui, c'était le président de l'Irak, qui payait les familles des terroristes. Le Seigneur l'a repris, celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit, ça c'est l'histoire des peuples autour de nous. Et pendant cette intifada, eh bien, il y a eu des attentats terroristes dans notre ville, à Kfar Saba. Alors le premier attentat terroriste, c'était un bus de jeunes qui allait à l'école le matin. Et on avait un jeune de notre assemblée, 17 ans, il allait à l'école, il est monté dans le bus. Et puis tout d'un coup, le bus était bondé, tous les jeunes allaient à l'école, bondé de monde. Et puis tout d'un coup, ce jeune, il avait un mal de tête. Il dit, oh, j'ai très mal à la tête, je ne crois pas que je vais aller à l'école. Alors il pousse le bouton pour sortir, la porte s'ouvre, il sort, 100 mètres plus loin, le bus explose en tuant des camarades d'école avec ce jeune palestinien musulman qui s'est fait exploser. Choc, traumatisé, ce jeune est traumatisé. Faut savoir que c'est un rescapé. Et souvent pour les rescapés, c'est encore plus dur que ceux qui sont partis, parce que on se dit pourquoi moi et pourquoi pas eux, et c'est tout un traumatisé, 17 ans, sa famille en larmes au bord. Alors, il faut gérer une situation, je suis pasteur, il faut gérer. Il faut aller les voir, il faut leur parler, il faut prier, il faut les écouter, beaucoup écouter. C'est pour ça qu'on a deux oreilles et une bouche. Voilà. La relation d'aide, c'est quoi? Ben, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est-à-dire on se concentre et puis on répète. Ah, tu m'as dit ça, on répète avec les mots de la personne. Et donc écouter, c'est très important, écouter et prier. Une semaine plus tard, un autre terroriste rentre dans le centre commercial, là où j'avais une de mes filles qui travaillait dans un magasin d'optique. Et il rentre et il a une ceinture d'explosifs. Et là, à l'entrée de ce centre commercial, il y a une personne de service de sécurité qui l'arrête et qui le voit. Il est un petit peu, bon, il voit un petit peu qu'il est différent. Et donc ce terroriste se fait exploser à l'entrée du centre commercial avec cette personne du centre de la sécurité. Voilà, donc il le tue. Ma fille se trouvait à 200 mètres dans le centre commercial. Et les gens commencent à m'appeler. Imaginez-vous, vous êtes pasteur et les gens ont peur. Même des chrétiens peuvent avoir peur. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Alors ils appellent 2h du matin. Écoute Tony, je peux pas aller au travail. J'ai peur. Je peux pas prendre le bus. Ils sont complètement paralysés. Qu'est-ce qu'on fait? Attentat terroriste. Les gens ne vont plus au travail, ils prennent plus le bus, ils sont plus dans les places publiques. Et moi, avec la situation avec ce jeune garçon traumatisé, et surtout avec notre fille qui aurait pu perdre sa vie, ma fille à moi, ma plus grande. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? J'étais complètement débordé, j'étais au bord vraiment de la dépression. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Je criais à Dieu pendant la nuit, qu'est-ce que je peux faire? J'étais me coucher et le Seigneur m'a donné un rêve. Je n'ai pas beaucoup de rêves, mais quand j'ai des rêves, je sais que Dieu est dans ces rêves. C'est très très fort, ça marque. Et dans ce rêve, eh bien, j'étais devant un grand arc immense que je voulais tendre et je n'arrivais pas à le tendre. Il était tellement, tellement, tellement gros cet arc, fort. Je n'arrivais pas à le tendre. Et tout d'un coup, j'ai vu des personnes que je ne connaissais pas, qui venaient de loin et qui marchaient de différentes places. Et ensemble, ils sont venus à côté de moi et ensemble, on a tendu cet arc. On a mis une flèche, et au bout de la flèche, c'est comme un bulbe, comme une boule, bulbe. On a tiré l'arc, et l'arc est tombé sur la carte du Moyen-Orient. Et quand il est tombé sur la carte du Moyen-Orient, c'était comme une explosion atomique, vous savez, avec la lumière. La lumière a illuminé cette carte, qui était avec le centre Israël, mais j'ai vu très clairement le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, voilà, tout autour. Et j'ai vu que cette flèche, en fait, eh bien, amenait la lumière dans tout ce Moyen-Orient. Et le Seigneur m'a donné deux mots, m'a donné intercession dans la prière et l'unité des ministères. Et tout d'un coup, j'ai reçu vraiment du Seigneur, on va intercéder, on va prier pour que cette situation avec le terrorisme s'arrête. Parce que les armes que le Seigneur nous a données sont puissantes pour détruire les forteresses. Ce sont des forteresses spirituelles, ce sont des forteresses qui viennent de l'ennemi. Les armes du Seigneur sont plus puissantes et il nous a donné l'intercession. Donc, on va faire des réunions de prière, on va intercéder pour que le terrorisme s'arrête. Et l'autre chose, c'était l'unité dans les ministères. Et là, à cette époque-là, je disais, bon, on va toutes les assemblées en Israël vont se joindre ensemble, comme ça on va prier, on va avoir, il va y avoir de la force, de l'unité. L'union fait la force, hein, on est à côté de la Belgique, c'est le standard de la Belgique là. L'union fait la force et c'est aussi dans le royaume de Dieu. Satan s'est toujours divisé pour régner et nous avons besoin d'être unis. Alors on commence les réunions de prière, on appelle tout le monde, écoutez, cette situation de terrorisme doit arrêter, on va commencer à prier. Alors on commence à prier. Et puis chez nous, on a toujours des deux ou trois personnes, ils sont vraiment des, dans le combat spirituel. C'est comme s'ils allaient sortir les, les épées. Et puis tout de suite, on commence à lier les puissances, à chasser les démons, le démon de l'islam, etc. On commence à prier, voilà, ça fait du bruit, ça fait... Et par contre, moi, ce que je ressentais, c'est que toutes nos prières... tous les efforts qu'on faisait n'arrivaient pas à sortir du plafond. C'était comme si il y avait comme si une chape, c'était lourd. Ça sort pas du plafond, on s'active là, on dit des trucs, c'est peut-être des trucs bien, c'est peut-être des trucs vrais, mais il y a peut-être quelque chose avant qu'on a besoin de faire. Et j'ai dit, bon, restons dans la présence du Seigneur, attendons, le Seigneur veut nous parler, veut nous dire quelque chose de précis à ce sujet-là. Et tout d'un coup, il y a eu comme une révélation qui est venu à travers ce verset. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien. Et tout de suite, j'ai réalisé, c'est qui mon ennemi? Oui, bien sûr, c'est Satan. On a un seul ennemi, c'est Satan. Mais c'est quand même aussi ceux qui voulaient tuer ma fille, dans le centre commercial. Et celui qui a voulu tuer ce jeune gars de 17 ans, de mon assemblée. Aimez les ennemis. Je dois aimer ces jeunes musulmans terroristes qui sont prêts à se faire tuer pour un mensonge. Parce que pour eux, c'était la promesse du quoi ? Du paradis. Si tu tues des juifs, tu iras au paradis. Alors que la parole de Dieu dit « Je bénirai celui qui te bénit, je maudirai celui qui te maudit. » Ils vont pas au paradis, ça c'est sûr. Mais ils sont prêts à donner leur vie pour un mensonge. Qu'est-ce que c'est prêt à donner pour la vérité ? Et si ces personnes recevaient la vérité. C'est le genre de disciple que je veux, moi, dans mon assemblée. Et tout d'un coup, cette révélation, aimer son ennemi, c'est quoi? C'est lui donner la chose la plus chère que nous avons. L'argent, de l'or, j'en ai pas tellement. Mais je suis ambassadeur de Christ. Je peux faire donner des visas pour le royaume de Dieu. Et tout de suite, aimer son prochain, c'est lui apporter la bonne nouvelle du salut. Aimer son ennemi, eh bien, c'est l'amener à la foi en lui apportant le témoignage. Et tout de suite, révélation, l'histoire de l'Église. C'est quoi? C'est toujours à travers les étrangers que l'Évangile est venu. Regardez, Paul, rabbin, juif, disciple de Gamaliel, a été appelé l'apôtre des nations. Alors que Pierre, lui, il était apôtre d'Israël. Nous, dans les comités, on aurait pu dire, bon, moi je crois que Paul, il est plus juif, connaît bien la loi religieuse, lui, il va être l'apôtre des juifs. Et Pierre, lui, c'est un païen de chez païen, hein? Eh bien, lui, il va pouvoir. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il va pouvoir plus s'identifier avec les nations. Dieu a changé complètement la façon de penser. Il utilise les choses folles de ce monde pour confondre ceux qui se croient, qui se disent intelligents. Et donc, Paul, rabbin, il est amené l'évangile aux Grecs, puis aux Romains. Les Romains ont amené l'évangile aux Gaulois, les Gaulois aux Germains, les Germains aux Bretons. Et c'est toute l'histoire de l'Église. C'est toujours à travers l'ennemi, à travers l'étranger. Le ministère de réconciliation a toujours été un ministère où quelqu'un a franchi les limites de sa maison, de sa culture, pour rentrer dans une autre culture, une autre langue. De toute façon, il n'y a pas de prophète dans son propre pays. Vous savez, moi je prêche l'évangile dans le monde entier, 5 continents, plus de... Mais quand je rentre dans le nord de la France, je suis Tony, le petit qui a toujours fait des bêtises. La brebis noire. Je suis la brebis noire de la famille. Vous pouvez demander à mes cousines. Et je me sens tout petit dans le nord de la France. Il n'y a pas de prophète dans son propre village, dans sa propre ville, dans sa propre famille. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin de quelqu'un de l'étranger pour aider. Et je ne sais pas ici si on peut voir, est-ce que vous êtes natif, est-ce que quand, dans l'église où vous servez, est-ce que vous êtes natif de votre ville? Levez la main si vous êtes natif de votre ville, levez la main. C'est intéressant, regardez, 2, 3, 4, hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues servir dans une autre ville? Levez votre main, vous êtes dans une autre ville, vous servez le Seigneur. Voilà, c'est la grande majorité, c'est l'église. Vous voyez, le message de réconciliation, c'est toujours souvent la personne qui vient de l'extérieur apporter ce message. C'est bien d'avoir des gens sur place, des autochtones, comme on dit, hein? Surtout ici, on a besoin de parler le ch'ti, parce que, voilà, hein, le ch'tiland. Et je partage ce verset. Il faut annoncer l'évangile aux musulmans. Alors imaginez-vous, on est israélien, on est juif, il y a des morts tous les jours, il faut annoncer l'évangile aux musulmans. Prions. On commence à prier, c'était encore plus lourd. La chape de plomb. Et tout d'un coup, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à prier? Le Seigneur me dit, on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est que des mots. Parole. C'est que des mots. Et tout d'un coup, les gens s'effondrent en larmes. J'ai peur. Je les déteste. Je suis en colère. Toutes les émotions qui sont sorties naturellement, exprimées naturellement. Je ne peux pas prier pour eux. Je préférais qu'ils meurent. Je préférais qu'il y ait une... Je ne peux pas les pardonner après tout ce qu'ils ont fait. Il y avait des gens qui répétaient ce qui s'était passé parce que on a connu 9 guerres en 65 ans. Donc c'est les parents qui ont été morts, les attentats terroristes. On est juste au pied de la Samarie, à 1 kilomètre de la ville de Qalqilia. Et pour aller de notre ville à cette ville, il y a une route escarpée où beaucoup de gens ont perdu la vie. Donc c'est tout ce qui remontait, toutes les blessures qui remontaient. Et le Seigneur nous disait, il faut pardonner, il faut bénir, il faut aimer ses ennemis. Et on est passé par un temps comme ça dans notre communauté de nettoyage à sec par le sang de Jésus, où on a dû confesser notre haine, notre racisme, nos peurs, nos angoisses. Il y a eu des temps de guérison. Et puis petit à petit on a vu, le Seigneur commença à ouvrir les cieux. Il y avait des prières très très ciblées. Des prières vraiment où on a senti que le Seigneur nous entendait et allait exaucer nos prières. Et 2 mois plus tard, c'était fini. La vague d'intifada était finie, le terrorisme était descendu et on avait vraiment retour à la normale. Je dirais à la normale parce qu'en Israël c'est jamais normal, il y a toujours des crises, des rumeurs, hein, on est toujours dans l'œil du cyclone, il y a tout ce qui se passe autour de nous, toutes les frontières qui brûlent en fait maintenant avec ce printemps arabe, hein. Mais le Seigneur nous a montré, à travers l'amour pour nos ennemis, vraiment, qui est venu du cœur, le Seigneur nous a révélé que ces personnes-là étaient dans les ténèbres et qu'ils avaient besoin de la révélation de Jésus. C'est Jésus qui va changer leur cœur. Et je me suis retrouvé, on a une école de disciples pour les jeunes après le service militaire. Vous savez, après le service militaire, il y a une sorte d'école de disciples de 3 mois où les jeunes viennent et on les enseigne. Je suis un des enseignants. Et on était justement dans un monastère sur la route entre Jérusalem et Tel Aviv. C'était là où il y avait le centre de l'école. Et je rencontre un couple arabe. Et avec ce couple arabe de Haïfa, il y avait des musulmans qui étaient toxicomanes, des gens qui étaient dans la drogue. Et en fait, ce pasteur les prenait avec lui pendant 4-5 jours pour les désintoxiquer, pour prier avec eux, pour jeûner, ils jeûnaient avec eux, etc. Et quand on s'est rencontré avec ce pasteur arabe, tout de suite c'était le coup de foudre. On s'est aimé, on s'est apprécié, on s'est. Et j'ai dit, mais on se connaît depuis combien de temps? Ben juste maintenant, là, il y avait un truc qui passait entre nous, et tout d'un coup le Seigneur m'a fait voir dans ce rêve les gens qui venaient. Et tout d'un coup, j'ai commencé à regarder. La plupart de ces personnes-là sont arabes. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est ça l'unité des ministères. Et ensuite, le Seigneur m'a parlé à travers Ésaïe 19. Je ne sais pas si vous connaissez ce chapitre dans Ésaïe 19, au sujet de cette route de sainteté. C'est quelque chose qui est prophétique et c'est quelque chose que je vous soumets ici, parce que c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans le Moyen-Orient maintenant. Ésaïe 19, tout le chapitre est très bien à lire, mais on va lire les derniers versets à partir du verset 23. Ésaïe 19, 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. La Syrie, c'est maintenant ce qu'on appelle la Syrie, hein, plus l'Irak, hein, le Kurdistan. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Donc il y a une promesse pour l'Égypte et il y a une promesse pour la Syrie. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Et l'Éternel des armées les bénira en disant, Béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Il y a une route de sainteté dans le Moyen-Orient où Dieu va réunir juifs et arabes, des ministères, pour apporter ce ministère de réconciliation. Et je peux vous dire, en Israël, quand on va évangéliser, quand on va parler dans la rue, des juifs, des arabes ensemble, on parle de Jésus, les gens ne comprennent absolument plus rien. Juif, arabe, Jésus, c'est quoi votre religion? C'est pas une religion. C'est une relation personnelle avec le Dieu de la création. Il a cassé les boîtes. Il a brisé les murs. Et ça, c'est un message très puissant, ce message de réconciliation. Mais ce message doit commencer par le pardon. Pour avoir les fruits, il faut planter la graine. L'arbre doit porter des racines. Si nous voulons voir, eh bien, le message de réconciliation, ça commence déjà par la mort à nous-mêmes. Et être dans cette grâce de pouvoir pardonner les gens qui nous ont offensés. Alors, ces ministères arabes que nous soutenons, parce que moi je ne veux pas aller dans les villages palestiniens apporter la bonne nouvelle, ils vont me. Ça va servir pas grand-chose, mais je peux prier pour eux. On a un centre de distribution de nourriture, de vêtements, on les soutient complètement, on est complètement investi avec eux, on a des campagnes d'évangélisation, on a des conférences de réconciliation au Moyen-Orient, c'est souvent en Turquie ou en Jordanie ou dans des places qui sont neutres un petit peu, où on entend, eh bien, des pasteurs d'un peu de tous les pays qui viennent du Koweït, d'Égypte, d'Irak, nous raconter ce que Dieu fait parmi eux. Et je peux vous raconter des témoignages fantastiques que Dieu est en train de toucher les musulmans. C'est le temps, c'est l'heure de Dieu maintenant pour l'islam. L'islam, eh bien, le Seigneur va révéler sa vérité. Et des milliers, je dirais des milliers dans tout le Moyen-Orient, anciens musulmans se tournent vers Jésus. En Israël, dans les territoires disputés, dans les villages, Eh bien, il y a dans chaque village un groupe de croyants en Jésus. Ils sont cachés, puisque la persécution est réelle. Ils peuvent risquer leur vie. Il y a même dans certaines villes des groupes qui ne se connaissent pas entre eux, exprès, donc qui restent un peu dans l'anonymat pour ne pas être exposés, parce que sinon c'est la mort à tout prix. Dans la religion de l'islam, celui qui était musulman, qui a rejeté l'islam, c'est la mort. C'est le renégat, c'est la mort. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, simplement, si Dieu peut apporter ce ministère de réconciliation entre juifs et arabes, eh bien, il peut apporter ce ministère de réconciliation dans votre famille, dans votre église, dans votre ville. Et c'est ce défi que je veux vous donner aussi. Hein? Je me permets de vous donner des défis, parce que moi, je viens de l'étranger, après je m'en vais, et puis c'est... Non. Ce défi, c'est quoi? Si la puissance de Dieu est active pour apporter, amener des Israéliens à pardonner aux musulmans qui voulaient tuer nos enfants, que nous puissions les aimer à un tel point que nous maintenant nous leur apportons la bonne nouvelle de l'évangile, que nous travaillons en partenariat juif et arabe ensemble, alors, dans votre ville, dans votre village, tout est possible puisque nous avons le même Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes à qui nous avons besoin de pardonner? Et souvent on se dit, c'est facile de pardonner les gens du dehors, mais les gens qui nous ont le plus blessés, ce sont les gens du dedans. Et je me souviens que je peux vous raconter des histoires aussi, des vraies histoires, des frères en Christ, des coéquipiers, des pasteurs, des personnes que j'ai fait grandir dans la foi, à qui je leur donnais des ministères et les envoyer, ont tourné pendant que je lavais le dos derrière avec un couteau en train de me salir et de me maudire et de m'accuser. Ça vous est arrivé peut-être dans votre ministère? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des amis très très proches avec qui nous étions coéquipiers, qui tout d'un coup, pour des raisons, et je ne veux pas rentrer dans ces raisons, parce que moi je dois faire mon travail, c'est à moi de pardonner, le Seigneur connaît toutes choses. Et je me souviens, avec un frère qui m'avait aussi énormément sali dans ma réputation, qui est devenu en fait ennemi de mon ministère, de moi, de ma famille. Le Seigneur m'a dit, maintenant, il faut, pour être libéré, il faut que tu lui pardonnes. Il faut que tu ailles à lui et que tu lui dises tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as été raconté aux autres. Eh bien, je sais que c'est un mensonge et je te pardonne maintenant. Et je me souvenais de son anniversaire, puisqu'on fêtait les anniversaires. C'est un ami assez proche. Le jour de son anniversaire, je lui ai préparé un beau cadeau. J'étais investir moi-même avec de l'argent, lui acheter un beau cadeau. Et je lui fais envoyer chez lui. Et il a reçu ce cadeau. Et quand j'ai acheté ce cadeau, quand je lui ai envoyé avec une carte, j'ai senti que le Seigneur, il avait pris des grands ciseaux et qu'il avait coupé cette relation négative, cette relation de tristesse que j'avais dans mon cœur, cette relation de trahison que je ressentais envers lui. Et en bénissant mon frère, en bénissant mon ennemi, eh bien, j'étais délivré et libéré. On s'est revus depuis, on s'estime beaucoup. Il a son ministère dans une autre ville, j'ai mon ministère dans la mienne. De temps en temps, on fait des choses ensemble, parce qu'on est frères en Christ, et mon cœur est guéri. Et c'est ça la chose la plus importante, parce que quand le cœur est guéri, on peut aimer. On ne peut pas aimer quand on est blessé. Parce que quand on est blessé, on essaie de se protéger. Pour aimer, il faut donner. Et si on essaie de se protéger, eh bien, on va passer toute notre énergie et notre temps à essayer de garder les barrières. Oui, je t'aime, mais à distance. Le Seigneur veut que nous élargissions nos cœurs. Et quelqu'un m'a dit quelque chose de très très fort. Chante comme si personne ne t'écoutait. Danse comme si personne ne te voyait. Aime comme si personne ne t'avait blessé. Et travaille comme si tu n'avais jamais besoin d'argent. Aime comme si personne ne t'avait blessé. Nous pouvons revenir à la situation « personne ne m'a blessé ». En Christ, je suis une nouvelle créature, c'est-à-dire la grâce de Dieu se renouvelle tous les jours. C'est l'ancien Tony qui a été blessé. Mais le nouveau Tony maintenant a pardonné. Le pardon, c'est lâcher, c'est couper. Et si quelqu'un nous a blessés, c'est le moment de pardonner. Il n'y a pas plus de chose plus belle que le pardon. Il n'y a pas de chose plus belle que le pardon. Et vous savez, quand Pierre est venu, il a dit, « Combien de fois est-ce que je dois pardonner ?» Jusqu'à 7 fois, c'est beaucoup. Pardonner la même personne 7 fois. Je suis marié 33 ans presque. Je crois que j'ai dû pardonner plus de 7 fois et ma femme, certain, plus de 7000 fois. En couple, c'est tellement facile de laisser l'amertume s'infiltrer, la critique, les jugements, et aller se coucher avant de dormir, se demander pardon. Pardon, si je t'ai blessé, si je t'ai offensé par ces paroles, de revenir à la sensibilité du Saint-Esprit dans le couple, dans l'Église. Les péchés qui ne sont pas pardonnés, les péchés qui ne sont pas apportés au Seigneur vont ramener une chape de plomb dans notre communauté. Et nous, en tant que responsables, nous avons la responsabilité, nous-mêmes, de garder ce cœur sensible, de demander au Seigneur de nous pardonner comme nous pardonnons aux autres qui nous ont offensés. Alors, je vous donne des sujets à réflexion. Là, on a terminé, on va prier peut-être. Hein, on va remettre les choses aux mains du Seigneur. Peut-être pendant cet après-midi, si vous vous souvenez des personnes qui vous ont blessé. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce ministère de réconciliation que tu nous as donné, qui est pratique, qui est physique, qui nous demande, Seigneur, de tourner la page, de lâcher la dette. Et Seigneur, nous voulons te dire que nous sommes prêts, Seigneur, à rentrer dans ce projet, dans cet appel de rechercher la paix, de pardonner à nos ennemis, de les bénir, de leur apporter la bonne nouvelle. Que ce soit les ennemis de l'extérieur ou les ennemis de l'intérieur, Seigneur, tous ceux qui nous ont voulu du mal, nous voulons te dire, Seigneur, nous choisissons de les pardonner. Comme tu nous as pardonné. Cette dette que tu as payée pour nous, Seigneur, nous voulons maintenant payer cette dette pour ceux qui nous ont blessés. Nous pardonnons, nous choisissons de pardonner. Et nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, que tu puisses couper maintenant, au nom de Jésus, toute relation négative qui ne vient pas de toi, tout sentiment d'injustice, tout sentiment de rejet, tout sentiment d'abandon, tout sentiment de haine et de mépris. Seigneur, nous les apportons devant toi maintenant. Et par ta grâce, nous exerçons le pardon. Nous choisissons de pardonner. Merci Seigneur pour nous délivrer. Pour rendre nos cœurs purs, nos cœurs libres de pouvoir aimer. Seigneur, nous t'apportons chacune de ces relations qui sont peut-être des fardeaux encore pour nous. Mais Seigneur, nous te demandons, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, par la grâce que nous accordons aussi aux autres personnes autour de nous. Nous bénissons nos ennemis. Et nous prions, Seigneur, que tu les sauves. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Nous bénissons. Nous bénissons peut-être les autres églises dans notre ville, peut-être qui sont en jalousie ou en concurrence, alors qu'il n'y a qu'une seule église et que c'est toi qui bâtis ton église. Seigneur, nous bénissons les autres ministères autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à aimer et garder le cœur pur, sans jalousie ni haine. Aide-nous, Seigneur, aussi, à garder notre bouche fermée quand nous avons besoin, de ne pas ni juger, ni maltraiter, ni accuser. C'est toi qui es le seul juge, c'est toi qui connais tout, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce ministère de réconciliation. Pour, Seigneur, nous guérir, nous restaurer et nous rendre, Seigneur, devant toi, comme des enfants qui aiment comme s'ils n'ont jamais été blessés. Au nom de Jésus. Amen.